Voilà, oui, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir. Che fa? Aggredisci.
Ma stata forte, che fa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Et bonjour à toutes et à tous les cinéphiles, bienvenue dans Cinémascope, le magazine de l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, le mal est partout. Chaos idéologique, angoisse climatique, violence et vengeance, questionnement sur l'IA. Ouh, qu'est-ce que le cinéma dit de notre monde et comment il en parle? Alors aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas avec les films qui sont à l'affiche, qu'ils vont traiter la question sous-jacente du mal avec les codes du polar ou du thriller, un peu tous. Oui. Bon, on va voir, c'est comme ça, jeté sur le papier. Oui. On va voir avec vous trois. Alexis, bonjour.
Bonjour, on va questionner le monde d'aujourd'hui.
Oh oui. Julien, salut.
Bonjour.
Et Olivier.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Et Sylvain.
Bonjour à tous.
Tu questionnes avec nous, Sylvain.
Si tu veux.
Ouais, comme toujours. Merci. Et on va parler donc des films Une bataille après l'autre, Un simple accident, Rembrandt, Dalloway, on dira peut-être un mot des tourmentés. Mais ça y est, on se jette dans la bataille tout de suite.
What I'm doing here is I'm creating a closed circuit. Very important to keep your cap shunted like this so you don't accidentally detonate your charge.
Don't stop.
I want you to create a show. This is an announcement of revolution. The message is clear.
I'll be seeing you very soon.
Not if I see you first.
Vive la révolution!
Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur.
Oui, là, faut que tu comprennes que...
Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère. Et maintenant, ils s'en prennent à nous. Je suis désolé.
J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris.
Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries.
Putain, papa, c'est quoi ton problème?
T'as raison. On y va.
Eh ben, let's go. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson avec, vous l'avez entendu, voix française et voix originale, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Teyana Taylor et Sean Penn, qu'on a entendu un tout petit peu, qui fait le méchant. Blondinet peroxydé.
Blondinet, ouais. un méchant blondinet. Hein. Depuis que j'ai entendu parler de ce film, je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de me dire, c'est une aventure après l'autre. C'est pas le titre original, des fois? Je sais pas. En tous les cas, donc, c'est une bataille après l'autre. Pour moi, donc, un formidable film d'aventure. Ça raconte quoi? C'est en deux parties, d'une certaine manière. À une époque, French 75, donc des années 70, Leonardo DiCaprio est un des membres principaux et un des plus efficaces d'une milice révolutionnaire anticapitaliste qui fait quand même des gros coups, sabotage, libération de migrants, enfin, etc. Bon, voilà. Ils sont évidemment cibles du gouvernement fédéral et probablement des gouvernements locaux. Et puis, on les retrouve 15 ans plus tard. On les retrouve 15 ans plus tard. Et Leonardo DiCaprio a une fille qui est née au moment de ses activités de révolutionnaire. Et puis donc, toute la question au niveau de Leonardo DiCaprio, ça va être de savoir qui est le père de cette petite fille, en fait. La mère étant une révolutionnaire qui a disparu du circuit.
Voilà. C'est ça, et qu'on entend au début, moi ça m'a donné très envie.
Formidable actrice, d'ailleurs je ne retrouve pas son nom.
Teyana Taylor.
Oui, vraiment impressionnante.
Premier rôle.
Oui, c'est vraiment quelque chose de très, très impressionnant. Mais enfin, effectivement, elle est éliminée du film.
Au bout de 35 minutes.
C'est un film. Pourquoi je parle de film d'aventure? Parce que la première chose qui saute aux yeux quand on voit ce film, c'est la qualité du scénario et de l'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme ça que les éditeurs nous vendaient nos petits romans quand on était gamin, fertiles en rebondissements. Ben voilà, on a quelque chose de fertile en rebondissements. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Et puis, ce qui donne ce ton de l'aventure, c'est qu'on est dans la vie intense, puisqu'effectivement, il va être question de paternité biologique ou pas. Il va être question de choix de vie. Fondamentaux, radicaux. Il va être question de choix politiques également. Donc, on prend en charge non seulement un destin individuel, celui de Leonardo DiCaprio, de sa fille, sa compagne, etc. On prend le destin individuel de Sean Penn, c'est-à-dire le policier fédéral aux méthodes plus que atypique qui chasse donc ces anciens révolutionnaires. Et puis on prend en charge évidemment, oui, c'est vrai, le destin de l'Amérique, toutes les questions politiques qui se posent aux États-Unis aujourd'hui, qui se posent aux États-Unis depuis leur fondation en fait. Donc effectivement, on est dans la vie intense, mais ça nourrit surtout le caractère aventureux du film qui donc ensuite, pardon, est servi par des acteurs extrêmement brillants. Enfin, Sean Penn et Leonardo DiCaprio en particulier font un numéro, une fois de plus, assez extraordinaire. Moi, c'est le Leonardo DiCaprio de Once Upon a Time in the West, etc. C'est un monsieur, quoi, d'acteur. Et Sean Penn, alors lui il franchit les limites du jeu habituel. En termes de transformation physique, c'est quelque chose d'une performance absolument extraordinaire. C'est aussi dans des décors qui sont étonnants, en particulier ces routes à collines successives comme ça qui nous font perdre de notre champ de vision les éléments avant qu'ils ressurgissent comme ça. Tout est fait donc pour effectivement qu'on soit resollicité en permanence du début à la fin. Autant vous dire que la durée du film, là, 2h50, on s'en aperçoit pas. C'est près de 3 heures d'aventure.
Et politiquement, qu'est-ce que ça raconte? Parce que est-ce que c'est justement, c'est assez, ça semble assez clivé. Est-ce que ça dépasse ça ou qu'est-ce que
bon, alors là,
est-ce que ça dit quelque chose?
On va pas se mentir. Hors micro, on en parlait du contenu politique ou pas de ce film. Pour moi, non, il y a pas de contenu politique parce que tout est ironisé. Enfin, je veux dire, le fait que la milice révolutionnaire s'appelle French 75, il y a encore une fois un petit clin d'œil des Américains en direction des Français, clin d'œil qui est toujours à minima ambigu quand c'est pas carrément du French bashing. Donc, il y a rien, il y a pas d'indicateur, il y a pas de panneau signalétique dans le film pour nous dire quoi penser, et même il n'y a pas de panneau indicateur pour nous dire mettez-vous à penser. Je crois qu'on est pris dans un film d'aventure formidable. Bon, après, chacun y trouvera ce qu'il peut y trouver. Dieu sait que la politique américaine m'intéresse. Franchement, je ne vois pas un débat sur la politique intérieure américaine d'aujourd'hui.
Une bataille après l'autre. Ouais.
Si je peux ajouter, alors j'ai pas vu le film, mais par contre je me suis beaucoup renseigné et écouté beaucoup de choses. Alors peut-être que Olivier va me confirmer, mais Sean Penn, en tout cas, ça fait longtemps qu'il a pas joué dans un grand film et qu'il a fait une interprétation aussi. Aussi, on va dire, bonne. Ces derniers films, enfin moi je pense par exemple au dernier qui était Dadio, qui était vraiment pas terrible, et apparemment il revient, on va dire, sur le devant de la scène avec un rôle de méchant qui est assez extraordinaire d'ailleurs, qu'il incarne très bien. Mmh. Je crois qu'on dit gueule cassée ou quelque chose comme ça,
c'est ça.
Voilà, et je reconnais que là aujourd'hui la Warner, parce que elle a quand même une ligne qui est assez commerciale quoi qu'il arrive, mais c'est un petit risque pour la Warner de sortir un film comme ça de Paul Thomas Anderson qui...
Pourquoi?
Alors parce que à l'habitude il fait très peu d'entrées au box office, ses films ne sont jamais des succès commerciaux et c'est souvent plutôt l'inverse, et d'ailleurs c'est pour ça que ça a été assez un risque d'avoir une une collaboration entre les deux, et il s'avère qu'en fait, le producteur de la Warner est plutôt très très ami et très fan du travail de Paul Thomas Anderson malgré les entrées qu'il fait. Voilà, donc c'était la petite anecdote, et je dis bravo parce que la ligne de conduite de Warner est pas toujours en tout cas très indépendante au niveau de ses films, et Paul Thomas Anderson reste quand même un réalisateur indépendant aux États-Unis, même si Une bataille après l'autre est un de ses films plus commercial malgré tout. Voilà.
Oui, mais enfin, il n'y a pas, encore une fois, ça se confirme ce que je disais, il n'y a pas beaucoup de risques politiques pris par Anderson dans ce film.
Bien sûr, parler. Bien sûr.
Oui, oui, bah après, il se frotte à un genre, mais quand on voit la filmographie de Paul Thomas Anderson, moi, je trouve que c'est un des réalisateurs les plus excitants de ces dernières années au niveau des propositions de films diverses et variées. Et là, il nous surprend encore, parce que Paul Thomas, faire un film d'aventure, c'était pas trop son créneau. Même si There Will Be Blood déjà avait quand même des grands moments, on va dire, d'action américaine.
Là, on est vraiment dans la réussite d'un film de genre, ouais.
Mais il s'est très peu planté, on va dire, en termes de réalisation et sur ce qu'il a proposé. Moi, je trouve que c'est un des réalisateurs les plus intéressants actuels, quoi, vivants.
petite comparaison frère Cohen, peut-être. Point d'interrogation.
Bah, c'est pas les mêmes gens, moi je trouve.
Non, mais en tout cas, sur son dernier film.
Sur
son dernier film, quelques références.
Du point de vue du sens, moins fort que les films des frères Cohen, pour moi, oui.
Ouais. Okay.
Et dans l'action, Tarantino ? Non, c'est complètement côté.
Non, c'est autre chose. Là, c'est plus classique. C'est plus classique que Tarantino, oui.
Allez vous faire votre propre idée, puisque de toute façon, il est à l'affiche dans pas mal de cinémas, Une bataille après l'autre. Il est à l'affiche du Navire, et bientôt il sera au Vence, puis à Valls et à Barjac. On enchaîne avec la Palme d'Or au dernier Festival de Cannes.
Bébé, maman, tu colles, qui a dit que ça fait de Oshkol. Iqbal, pour Gashenge.
خدا تعالی کشت رو پیدا کردم.
تو واقعا کی هستی؟
بعد اینکه شما رو گرفتم بعد دو هفته دوباره اومدن سراغ من به جور اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام منو گرفتن. فقط میخوام کمکم کنی ببینم خودشو یا نه
که پاقو را زر آورده اینجا
گلی
Donc, un simple accident de Jafar Panahi. On peut entendre déjà dans la bande-annonce un mélange de gravité, de suspense et d'humour. Julien.
Oui, tout à fait. Alors, un simple accident. Donc, c'est son dernier film. Ça raconte, sans dévoiler tout, quand même l'histoire d'un ancien prisonnier du régime qui se retrouve au contact d'un ancien bourreau, on va dire. Qu'il pense être un ancien bourreau. Pas vous donner la réponse, mais en tout cas, qui suspecte quelqu'un d'être son ancien bourreau, puisqu'effectivement, ils ne voient pas leur bourreau, puisqu'ils sont les yeux bandés quand ils sont torturés ou enfermés ou à leur contact. Donc du coup, ça pose plein. Alors le film a été Palme d'Or à Cannes, hein, il faut quand même le signaler. C'était quand même ce qui fait quand même de Jafar Panahi le réalisateur qui a eu tous les grands prix. Je crois que c'est le seul qui existe, qui a eu tous les grands prix, on va dire, de tous les grands festivals, c'est-à-dire Locarno, Venise. C'est quand même un réalisateur qui est assez reconnu. Il faut voir aussi qui c'est quelqu'un qui filme juste au titre aussi, parce que c'est quelqu'un qui a des conditions de réalisation qui sont quand même beaucoup plus compliquées que la plupart des réalisateurs, puisque il a fait de la prison, il continue quand même à tourner ses films en Iran. Et il filme, c'est pour ça que beaucoup de ses films se passent dans des voitures, puisque effectivement tous ces tournages sont interdits, donc se font sous le manteau, on va dire. Donc du coup il y a beaucoup et ce film là n'échappera pas à la règle avec on est dans une camionnette un van et donc du coup alors il faut savoir que quand même actuellement il a été absous, je crois, de ses enfin en tout cas il est libre actuellement, mais il a fait des séjours en prison, et ce film-là est un, on va dire, un hommage à ces, voilà, c'est les histoires aussi qu'il a écouté, entendu au contact des prisonniers, puisque le dernier séjour qu'il a fait il y a un an et demi, je crois, il était au contact des autres prisonniers, ce qui n'était pas dans, parce que je crois qu'il est deux fois en prison, ce qui n'était pas le cas où il était à l'isolement sur son premier séjour. Donc du coup, eh ben il a utilisé cette matière là en fait pour faire son film. Et on retrouve un peu sa patte, c'est-à-dire que c'est à la fois sur des sujets à la fois sensibles, graves, qui sont extrêmement critiques vis-à-vis du gouvernement en place, et à la fois il arrive à faire ça avec énormément d'humour, parce que c'est un film où il y a des passages où on se marre bien. Voilà, je dis ça pour que les gens n'aient pas peur d'aller voir ce genre de cinéma, parce que c'est comment la force, on va dire, de l'intelligence, l'intellect, l'humour peuvent déplacer des fois, on va dire, des montagnes à ce niveau-là et rendre, on va dire, très difficile pour les régimes autocratiques de s'attaquer à ça, en fait, finalement. Ouais. Et donc du coup, c'est un film qui pose plein de questions, à la fois sur effectivement victime et bourreau. Il y a toutes ces questions là qui sont posées, parce qu'on a plein de personnages qui ont des opinions différentes par rapport à la situation. Ça pose aussi des questions sur la justice. Comment, qu'est-ce que la justice, est-ce qu'on peut être juge, voilà. Enfin voilà, il y a plein de questions, et le film, je trouve, est hyper intéressant à ce niveau-là. Les acteurs sont géniaux. Moi, je trouve, je me suis régalé avec un ping-pong incessant, des dialogues vraiment, vraiment chouettes. Voilà. Moi, c'est difficile de dire du mal de ce film-là, parce qu'à la fois, il y a un plaisir de spectateur, où on rit, on apprend plein de choses, et à la fois, on est sur des sujets extrêmement sérieux et extrêmement vital et donc, un grand film.
C'est ce que Cathy disait la dernière fois, il me semble que c'était une palme accessible. Ouais, c'était vraiment un film...
Oui, c'est quelque chose d'accessible. Alors effectivement, on est loin du cinéaste thaïlandais là, qui faisait des films de 4 heures avec des plans fixes. Là, au nom imprononçable, donc je me mentirais, ça finit par Hul.
Oncle Bunmi.
Voilà, c'est ça. Donc, mais par contre, le film est accessible, mais ça ne veut pas dire qu'il en soit moins important, moi,
non,
je trouve, en termes
moins
de...
moins exigeant.
Voilà.
Oui, alors moi je comprends tout simplement pas les bémols qui ont été mis quant à l'obtention de la palme par Jafar Panahi là-dessus, parce que cette palme lui aurait été accordée surtout parce qu'il était une victime du régime iranien, etc., je sais pas quoi. Pas du tout. C'est un film...
Parce que La graine des figuiers sauvages de Mohammad Rasoulov ne l'avait pas eu l'année dernière.
Oui, mais non. C'est un film qui mérite sa palme, point barre, comme film. Julien a évoqué les conditions de tournage. Jafar Panahi, il a réussi à faire de ces conditions de tournage un cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'il a créé un cinéma à partir des conditions qui lui ont été faites pour tourner, quoi. Depuis Taxi Téhéran, par exemple. Donc, déjà, pour ça, avoir inventé un langage qui lui permet de dire ce qu'il a à dire de manière créative, réellement créative, ça mérite déjà une palme d'or, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont beaucoup de millions et qui ne font pas un dixième du côté de l'invention d'un langage cinématographique. Donc, quand même. Et alors, en plus de ça, en plus de la création d'un langage, je dirais qu'il y a... Alors là, c'est le contraire d'une bataille après l'autre. Là, le message, il est non seulement politique, mais il est aussi spirituel. Donc, Julien l'a très bien expliqué, je ne vais pas reprendre. Mais au-delà même de la question de la vengeance et de la justice, il y a la question du pardon. Donc, on débouche sur un horizon spirituel qui est infini, au sens littéral du terme. Et je trouve, pour pas trop m'étendre, mais quand même caractériser le film. Il se trouve qu'il y a, beaucoup une histoire de prothèse de jambes dans ce film. Et c'est le début du film parce que cette prothèse de jambes, elle doit avoir une extrémité en caoutchouc, et cette extrémité en caoutchouc, quand elle touche le sol, elle fait un petit couinement comme ça, qui est donc une sorte de signature. Et à tel point que la personne qui a fait le son de cette prothèse, il est crédité au générique quand même. Son de la prothèse. Bon, c'est dire quoi. Bon, et donc on a la chose. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus minuscule que ça, un son au cinéma provenant d'une chose qu'on ne voit même pas. C'est-à-dire, on le voit jamais. Ce bout de prothèse, on voit jamais. Donc c'est quand même tout à fait étonnant. Et je crois que c'est le style du film. Je parlais de langage, dans la mesure où l'énorme surgit du minuscule. C'est-à-dire, vous allez avoir, par exemple, un dialogue dans une lumière rouge, ou un trilogue dans une lumière rouge, cadré comme ça, fixe, et donc c'est minuscule du point de vue du dispositif, et là, il va y avoir des discussions qui, du point de vue philosophique, voire théologique, sont d'un niveau absolument invraisemblable, et ça passe. C'est-à-dire, c'est ça qui est merveilleux. Donc, on a vraiment l'énorme qui surgit du minuscule. Et puis, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, on a le rire qui se transforme imperceptiblement en grimace. C'est-à-dire, on se surprend à arrêter de se marrer parce qu'on est passé presque imperceptiblement du burlesque au tragique, quoi.
Mais c'est très vrai ce que tu dis. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est que ces personnages, parce qu'effectivement, on est sur des niveaux philosophiques qui sont très intéressants, mais c'est pas avec le langage philosophique classique, c'est très accessible. Ouais. Parce que c'est des gens du peuple, en fait. Les personnages qui sont présents sont des gens du peuple, donc qui parlent avec nos mots aussi.
Et donc, c'est très incarné.
Et c'est assez génial, ça, d'arriver. Confronté, on va dire, à l'inadmissible et à l'intolérable, il pose des mots dessus et ça soigne aussi. On sent qu'il y a quelque chose qui se crée là.
Un simple accident, allez le voir, précipitez-vous. Un simple accident de Jafar Panahi. Il est au navire, au Quinconce de Vals-les-Bains et au Vence aussi en ce moment. Eh bien, on enchaîne sur le prochain film.
Des voitures emportées par les flots déchaînés.
C'est une vague qui avoisine les 25 mètres de haut.
Et si on se trompait sur les aléas climatiques ?
Il y a quelque chose qui débloque. Mais je sais pas quoi.
Les analyses sont tenues cachées pour ne pas affoler la population.
Ça me rappelle une phrase entendue dans la bouche d'un expert coréen. Si tu veux résoudre la crise climatique, va au cinéma.
C'est quoi l'idée ? Nous rappeler alors ?
Il y a eu un incident majeur avec une de nos centrales depuis qu'elles existent ?
Réponds-moi, je t'en supplie.
Elle pose des questions pertinentes qu'on se pose tous.
Sans le nucléaire, on serait pas grand-chose. Pas de calcul, ni mail, ni SMS.
Rembrandt de Pierre Scholler avec Camille Cotin, Romain Duris et Céleste Brunkel. Tu es allé le voir, Alexis.
J'ai été le voir. Et en tout cas, sur le papier, le casting donne envie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on se dit, bon, un film politiquement engagé, qui paraît politiquement engagé, en tout cas, quand on va le voir, on s'attend à un thriller politique qui, en tout cas, dans la bande-annonce, peut paraître assez intense.
Aïe, 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 même, ça paraît. Bon, on passe à autre chose. La bande-annonce était bien, merci beaucoup. Voilà.
Ben, on peut en rester là, la bande-annonce était bien. non, mais il y a des choses à retenir positives et négatives, quand même. Alors, on suit l'histoire d'un couple donc de scientifiques dans le nucléaire qui travaillent depuis 20 ans au CNRS, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et en fait, au bout de 20 ans, un jour, donc ce couple-là va à la National Gallery à Londres et va tomber sur des tableaux de Rembrandt, sur une exposition où une salle, il y a 6-7 tableaux de Rembrandt. Et en fait, donc Camille Cotin, qui est le personnage de Claire, va tomber sur trois tableaux qui vont la marquer. dont un surtout sur laquelle elle va complètement péter un câble, où elle va carrément aller toucher le tableau, quelque chose de mystique va se passer, et donc son mari à côté va demander ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à ma femme. Et en fait, tout le long
c'est intriguant.
Et c'est intriguant, effectivement. Et en fait, il va lui arriver une espèce de révélation, une conscience, où depuis 20 ans, Rembrandt, en tout cas dans cette histoire-là, Rembrandt lui a parlé et lui a dit « Écoute, c'est la fin du monde. Le nucléaire, en gros, on peut pas continuer comme ça. Tout ce que tu as fait pendant 20 ans, en fait, c'est faux. » Et donc, il va y avoir une introspection en elle qui va se passer. Et donc, tout le long du film, on va la suivre dans son introspection, dans ses révélations, qui va jouer dans son travail, parce que forcément, en interne, elle va se poser plein de questions. Et en secret, elle va travailler avec son collègue pour voir les conséquences du nucléaire sur 30, 40, 50 ans. En parallèle avec le climat, c'est-à-dire que le climat va jouer également avec le nucléaire, dans le sens où est-ce que les centrales nucléaires vont être viables sur 50-60 ans avec la variation du climat. Et donc c'est une question techniquement déjà politique, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'elle va démontrer que je ne dis pas tout, mais que ça va être très peu jouable, et elle va montrer ça à ses semblables. Et le seul problème, donc tout vient
aux
physiciens, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va poser problématique. Et elle, au fur et à mesure du film, en fait, elle va s'isoler au fur et à mesure, et va devenir
complotiste
extrémiste.
Ah oui,
complètement. Elle va s'isoler, etc. Donc elle va perdre pied complètement, et son mari en face de lui va perdre pied en même temps, parce qu'il ne reconnaît plus sa femme, etc.
Donc c'est le basculement d'une scientifique dans une explication ésotérique jusqu'au complotisme. Ça pourrait être comme ça intéressant.
Voilà.
Alors
le scénario peut paraître intéressant mais bancal, parce que ça prend une tournure assez mystique avec Camille Cotin qui fait un parallèle avec les tableaux de Rembrandt et l'écologie, qui peut être une belle métaphore. Et en même temps, parce que dans le tableau de Rembrandt, il y a un des tableaux où il y a un changement de style complet, et en fait c'est un parallèle avec son changement à elle. C'est aussi voilà pourquoi le film s'appelle Rembrandt déjà à la base, et voilà. Donc le film a un scénario plutôt intéressant, mais il va pas au bout des choses, et moi je suis assez déçu.
Bon,
voilà.
Allez voir par vous-même Rembrandt de Pierre Scholler, qui passe à partir de mercredi prochain, donc au Vence, à Rouen, c'est la semaine suivante, il sera au Quinconce de Vals. On parle de Dalloway maintenant.
Clarissa ?
Clarissa !
Bonjour Clarissa. Il est 7h10. Test négatif.
Remets-moi où j'en étais hier, s'il te plaît.
Je vais réécrire, ça va pas.
Tu vas y arriver.
Since its creation, the residence mission has been to support the artists who give themselves to their art.
Vous en êtes où dans votre écriture?
Tu n'as pas l'air satisfaite.
Tu peux lire ce que j'ai écrit?
Ce soir, Lucas sera mort. Il va mourir le jour de son anniversaire.
Et il est avec la voix de Lucas.
Ce soir, je serai mort. Je vais mourir le jour de mon anniversaire.
Shouldn't share your personal life with your AI?
Continue, maman. Continue d'écrire.
Reprends ta voix, s'il te plaît.
Bien sûr, pardon.
Alors, sur un autre sujet contemporain, l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles, Dalloway de Yann Gozlan, à qui on doit notamment Boîte Noire, en tout cas qu'on a connu grâce à Boîte Noire. Film avec Cécile de France, notamment Lars Mikkelsen, que j'aime beaucoup. Mmh. On a entendu la voix d'Anna Mouglalis aussi.
Oui, glaçante.
Ouais, il y a Mylène Farmer, paraît-il aussi. Bon, bref. Oui. Alors, tout ça,
Dalloway, c'est une référence évidemment à Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, qui raconte 24 heures de la vie d'une femme. Et donc c'est un petit peu...
tu confonds, là c'est Stefan Zweig. Mais tu n'as plus toute ta tête.
Non, mais... 24 heures de la vie d'une femme est effectivement un texte de Stefan Zweig, mais Mrs. Dalloway est un roman de Virginia Woolf qui raconte 24 heures de la vie d'une
Clarissa,
femme.
Qui s'appelle Clarissa, dont on vient d'entendre le nom.
Voilà, donc tout va bien et je connais encore mes classiques. Il va donc être question de, à plusieurs niveaux successifs, j'ai essayé de le mettre en place, de création littéraire en particulier, mais pas que, de folie et de suicide. Donc c'est le destin de Virginia Woolf, c'est un petit peu le destin de l'héroïne de Virginia Woolf, c'est aussi le destin de Stefan Zweig.
Aïe, mais tu brouilles les pistes encore,
voilà.
Non.
Bon, à deux ans près, Stefan Zweig et Virginia Woolf se sont tous les deux suicidés. Voilà, donc on a tout un jeu de...
J'espère que vous racontez pas la fin. Parce que...
Non, pas du tout. Pas du tout, je sais. C'est d'ailleurs...
Parce que les gens, ils vont se dire...
C'est justement pour éviter le divulgachage que j'ai botté en direction de Virginia Woolf. Comme ça, tranquillement, je parle de Mrs. Dalloway et les gens se débrouillent pour ce qui est de l'intrigue du film.
Pour lire le livre.
Voilà, pour ce qui est de l'intrigue du film. Non, l'intrigue du film, c'est donc Cécile de France, Clarissa, qui rentre dans une résidence d'artiste pour écrire un nouveau roman. Elle est plutôt spécialisée dans la littérature jeunesse et là, elle se propose d'écrire un roman à haute teneur autobiographique. Et pour ça, elle est aidée par une intelligence artificielle. Donc on a comme tu le disais en début d'émission, on a encore une fois un film aujourd'hui fabriqué comme un thriller et aussi comme une enquête policière, parce qu'il va s'avérer qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe dans la tête de Clarissa, l'écrivaine en résidence, mais on a aussi besoin de savoir ce qui se passe dans cette résidence et quels sont les véritables buts poursuivis par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour soutenir la création. Donc on est vraiment dans une interrogation, on a vraiment une intrigue, et du coup on est véritablement pris dans un film...
Haletant,
oui, on va dire ça. C'est un mot que je voulais pas l'utiliser parce que je voulais l'utiliser pour une bataille après l'autre. Mais effectivement, il faut éviter.
On peut rembobiner, si
il faut, il faut éviter. Il faut éviter d'utiliser haletant et époustouflant parce qu'on le voit à toutes les pages des critiques aujourd'hui. Donc c'est un petit peu embêtant. Non, c'est un film qui est très très prenant. Et à quoi on le voit en particulier? Au jeu de Cécile de France. C'est-à-dire que Cécile de France, au début du film, apparaît aussi lisse que l'intelligence artificielle, et progressivement au cours du film, elle s'humanise et elle incarne de plus en plus ce qui la trouble, au point qu'on ne sait plus nous-mêmes si elle a toute sa raison ou si elle est véritablement victime d'une machination liée à l'intelligence artificielle. Je vais pas plus loin. Donc, effectivement, à cause de la dimension autobiographique de ce qu'elle est en train d'écrire, on est véritablement pris parce que ce film-là est entièrement consacré à la résolution d'énigmes. Et la résolution d'énigmes, finalement, c'est peut-être ce qui sous-tend toute existence humaine depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, parce qu'enfant, on se demande pourquoi et comment on fait les bébés, c'est-à-dire comment on est arrivé. Et puis à la fin de sa vie, on se demande qu'est-ce que ça va faire de mourir et qu'est-ce qu'il va y avoir après. Donc cette idée d'être toujours avec une énigme qui plane au-dessus de notre tête et dont dépend le sens même de notre vie et notre existence même, effectivement, ce film, il prend ça en charge et il le prend de manière stylistiquement et du point de vue du genre cinématographique complètement assumé, quoi. Voilà. Et comme ces films à intrigue, ces films policiers, ils doivent avoir un contexte historique, le contexte historique complet, c'est nous aujourd'hui. Et c'est pas véritablement dystopique, hein, parce que tout ce qu'il y a autour de Clarisse dans la résidence, l'intelligence artificielle en particulier, tout ça est parfaitement crédible aujourd'hui. Donc on est vraiment aujourd'hui et ça invite à se poser effectivement la question de l'usage de l'intelligence artificielle, parce qu'on a effectivement, mais alors même dans nos métiers, hein, et dans notre vie quotidienne, à résoudre cette énigme là c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ce machin?
Qu'est-ce qu'on fait de ce machin? C'est une bonne question. Il nous reste plus de temps, en fait, pour rien d'autre. Donc on ne parlera pas des tourmentés. Au niveau de l'agenda, quelque chose à signaler au niveau de la tournée?
On continue à faire des séances à Tueil et à Lussas. On fait aussi des séances à chaque début de mois à Valgorge. Donc je vous invite à regarder.
Rien de concret à nous dire. Je reprends la parole.
Vas-y, je la connais pas par cœur en fait.
Oui, non. Ce vendredi, Le Roi Soleil à Lussas. Dimanche, il y aura à Tueil, Connemara.
Un livre à film.
Ça, on peut dire un petit mot. C'est en fait un livre à film. C'est en partenariat avec la médiathèque de Tueil. Et on projette effectivement Connemara, qui est une adaptation littéraire. Et après, il y a une discussion, un échange à l'issue du film sur à la fois le livre et le film.
Et puis, une avant-première surprise, mardi. Ça, on aime les avant-premières surprises. Ce sera à Lussas également à 20h30. Et mardi, il y a également Récolter pour semer.
Oui.
Un film dont on vous a déjà parlé.
De la semaine bleue.
De la semaine bleue qui parle, effectivement, ce sont des témoignages filmés par Justine Collomb avec un regard artistique sur cette récolte, justement, de témoignages des plus vieux, quoi. Donc ce sera mardi à 15h ou jeudi à 20h. Voilà, tout est dit, je pense, sur l'agenda. Merci beaucoup à tous les quatre et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Cinémascope.
Merci.
Ciao. Voilà.